Vous êtes sur le podcast Vivre, le podcast qui vous inspire et vous aide à faire grandir votre richesse intérieure. Au micro, c'est Leïla, fondatrice de la Mindful Academy, et je suis très heureuse de vous accompagner sur ce chemin. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Vivre. Je suis hyper heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Nous allons parler d'un sujet que j'adore, ce sont les 5 accords Toltec. Pour ceux qui ont déjà lu le livre, ça va vous faire un petit rafraîchissement. Et puis pour ceux et celles qui ne l'ont pas encore lu, je vous conseille vivement la lecture de ce livre que je trouve inspirant, apaisant et déculpabilisant. Je vous allez mieux comprendre pourquoi je donne ces 3 adjectifs lorsqu'on va rentrer dans le détail des 5 accords. Alors, je ne vais pas être très scolaire dans cet épisode-là. Mon intention n'est pas de vous résumer le livre, mais vraiment vous donner une coloration, ma propre coloration de mon expérience, vous donner des exemples de ma vie, de ce que j'ai appliqué, des personnes que j'accompagne. Donc, on va beaucoup plus être dans l'illustration et l'appropriation, qui bien sûr inclut mon interprétation qui n'engage que moi. Tout cela dans l'intention de vous partager des enseignements que j'ai moi-même appris et qui m'ont beaucoup servi dans ma vie, que j'essaie de distiller dans ma propre façon de vivre, mais aussi dans mes accompagnements, et qui ont fait beaucoup de bien, que ce soit moi ou que ce soit aux autres personnes qui les appliquent. Donc j'aimerais avec cet épisode vous faire réfléchir justement à comment les appliquer et pas seulement voilà, les écouter parce que c'est plein de bon sens. On peut se dire « Ah oui, effectivement, ça fait sens, etc. » Mais la difficulté va commencer à faire surface lorsqu'il s'agit d'appliquer parce que nous avons des habitudes qui sont bien ancrées et le changement va demander à ce qu'on vienne questionner ses habitudes, à ce qu'on questionne nos croyances, à ce qu'on ait un regard curieux envers notre expérience et cette volonté de vouloir faire changer les choses et bouger, sans laquelle malheureusement tous ces cadres et toutes ces propositions resteront théoriques. C'est aussi la raison pour laquelle je voudrais faire un focus sur l'illustration plus que sur le détail académique des concepts. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous demander si vous aimez ce podcast-là, de prendre une petite seconde, de me laisser un joli rating 5 étoiles sur la plateforme d'écoute autre choix, que ce soit Spotify ou Apple. Cela me motive à toujours vous créer du contenu de qualité et aussi aide le podcast à se faire connaître. Donc rentrons maintenant dans le vif du sujet et commençons avec le premier accord. Le premier accord dit que ta parole soit impeccable. Waouh, c'est dur, hein? C'est super dur. La première fois que j'avais lu cette phrase-là, avant d'avancer dans la lecture du livre, je me suis posée et je me suis vraiment questionnée sur ma parole. Et je vous avoue qu'elle n'est pas du tout impeccable. Elle n'est pas impeccable pour plusieurs raisons, parce qu'il y a plusieurs émotions, pouvant ressentir de la colère, de l'irritation, de l'agacement. Il y a aussi parfois de l'ego qui s'exprime. Il y a de la réactivité et il nous arrive, et il m'arrive aussi, de dire des choses que je regrette, de moins en moins honnêtement. Je pense que j'ai fait un grand travail, un grand chemin sur ça. Je suis hyper contente. J'ai pas toujours été comme ça, mais j'ai appris avec le temps, avec l'expérience et aussi beaucoup avec la pleine conscience. Franchement, ça m'a vraiment beaucoup aidée à prendre conscience de mon émotion, à faire une pause au lieu de réagir sur l'instant, à ne pas prendre les choses personnellement et aussi à ne pas rentrer dans des jeux de « à qui le mieux ?»« À qui va blesser l'autre le plus ?»« À qui va dire le plus de méchanceté ?» Donc j'entre plus dans des combats de langage. Et que ta parole soit impeccable s'applique que ce soit consciemment, ce que je viens de dire, et surtout conscient. On est conscient qu'on est méchant parfois. Et c'est peut-être aussi parce qu'on a été blessé et que c'est notre manière de réagir un peu bestiale, je dirais. Mais parfois, ça peut aussi être inconscient. Nous n'avons pas toujours conscience de l'impact de ce qu'on dit et des traces que cela peut laisser. Et je peux vous raconter un exemple qui date de mon enfance, où j'avais fait un test pour intégrer la chorale, qu'on appelait à ce moment-là la chorale de l'école, et puis le professeur a jugé que ma voix n'était pas adaptée, n'était pas adéquate, mais la manière dont il me l'avait indiqué avait laissé beaucoup de traces, et pendant longtemps, alors que j'aimais chanter, je n'osais pas chanter. Alors que je joue aussi de la musique, et que ça me plaît de chanter, même si je sais que ma voix n'est pas parfaite. Et dernièrement, je pensais justement à reprendre des cours de chant parce que je me suis détachée de ça. Et parce que ça me fait kiffer, rien que pour moi. Hein. C'est pas pour vous devenir chanteuse ni quoi que ce soit. Mais c'est simplement vous dire alors le nombre d'années que ça m'a pris pour m'en défaire. Donc oui, que la parole soit impeccable aide aussi à avoir un apaisement autour de soi. Mais vous savez quoi? Ce sur quoi je voulais plus mettre l'accent, c'est ce qu'on se dit à soi-même. La parole que nous avons envers nous-mêmes, les mots que nous employons à nous qualifier, à nous juger, sont souvent plus durs que les mots que nous utilisons pour qualifier les autres. Nous sommes souvent plus durs avec nous-mêmes que nous le sommes avec les autres. Et cette parole impeccable, à laquelle nous invite ce premier accord, est aussi une parole impeccable envers soi. Une parole consciente envers soi. Une parole bienveillante envers soi. Car la manière dont nous allons parler à nous-mêmes va refléter aussi la confiance que nous avons en nous-mêmes, en la vie et notre capacité d'évoluer. Alors je voudrais, pour ce premier accord, vraiment faire d'abord un accent sur la parole impeccable envers soi. Donc si un premier entraînement à faire, c'est cette parole impeccable envers soi, de faire la liste de qu'est-ce qu'on se raconte en fait, d'être conscient de ce qu'on se raconte, d'être conscient des paroles internes qui sont dans des pensées, des ruminations constantes, régulières, répétitives, de les questionner, de questionner leur utilité ou leur nuisance et d'agir en fonction. Ensuite, le deuxième accord, c'est quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Alors, comment moi j'ai vécu et j'ai interprété ce deuxième accord, c'est plutôt de l'autre côté, c'est que oui, notre parole n'est pas impeccable, mais aussi la parole des autres n'est pas impeccable. Donc, lorsque nous recevons une parole, nous ne sommes pas dans le fait de dire, parce que si tout le monde avait une parole impeccable, si tout le monde appliquait les accords, tout irait bien. Mais ça, c'est un idéal qui n'existe pas. Et nous-mêmes, nous restons humains, donc nous tendons à observer ce qui se passe, à en devenir conscient, à devenir meilleur, à nous entraîner. Mais il reste un côté humain qui va refaire surface, qui va prendre du temps pour pouvoir être changé. Et ce deuxième accord est, à mon sens, super intéressant. Et si je reprends l'histoire, l'exemple que je vous ai donné sur justement le prof de chant que j'avais quand j'étais petite, enfin, qui n'a jamais été mon prof du coup finalement, parce que je n'ai pas été sélectionnée, j'en avais fait une histoire personnelle pendant longtemps. Et lorsque une personne pense que nous sommes bêtes, ou que nous sommes gros, ou que nous ne sommes pas compétents, ou que nous gérons mal nos émotions, ou que sais-je, cela n'est pas forcément juste un qualificatif sur notre physique, notre mental, notre façon d'être, mais peut aussi être sur notre expérience, sur le fait de considérer certaines de nos expériences comme des échecs ou comme des réussites, ou alors de juger ce que nous allons faire, si c'est adapté ou pas. La vie des autres n'est pas notre affaire. C'est le reflet de leurs propres croyances, c'est le reflet de leur propre éducation, ce sont aussi leurs propres insécurités qui s'expriment, ou parfois cela peut avoir des intentions qui ne sont pas toujours bonnes, comme la volonté de vouloir blesser l'autre. Donc ce jugement d'autrui est aussi à questionner et pas à prendre au pied de la lettre, ne pas en faire une histoire personnelle. Et vous savez, même si on élargit un petit peu cette définition-là et qu'on prend des exemples dans le cadre du travail, si par exemple votre responsable vous indique qu'un travail n'a pas été correctement réalisé, cela ne veut pas forcément dire que vous êtes mauvais. C'est ça aussi en faire une histoire personnelle, c'est que on est en train d'évaluer un travail à l'instant T qui n'est pas forcément représentatif de qui vous êtes. Malheureusement, tous les managers ne sont pas formés à un leadership conscient et peuvent être très maladroits dans leur manière d'exprimer leur mécontentement. Ils n'ont pas, justement, suivant le premier accord, une parole impeccable, ce qui contribue très fortement à faire croire davantage à la personne que c'est une affaire personnelle, alors que ce n'est pas le cas. Si votre conjoint ou votre ami ou que sais-je vous fait une remarque sur un de vos habits, un de vos plats, une de vos réflexions, cela ne veut pas forcément dire que cette personne pense que vous ne comprenez rien ou que vous n'avez pas de goût. Vous êtes simplement en désaccord sur un certain élément à un instant T. Donc cette généralisation faite d'un commentaire reçu ou d'une parole reçue peut créer des ruminations qui ne sont ni nécessaires ni souhaitables et qui vont venir diminuer la confiance que vous avez en vous-même, l'estime que vous avez de vous-même, parce que vous faites aussi une histoire personnelle de tout ce qu'on vous dit. Et il y a aussi, alors dans mon interprétation bien sûr, hein, deux autres niveaux de ce deuxième accord. Il y a un niveau qui est nos propres jugements. Faire attention à nos propres jugements pour nous-mêmes. Donc nous-mêmes, nous avons des propres jugements, des propres croyances dont nous faisons des histoires personnelles. Donc nous allons confondre nos croyances et notre vision de nous-mêmes avec qui nous sommes. Sauf que notre vision peut aussi être erronée. Et le fait de confondre notre perception et notre réalité nous empêche d'avoir nous-mêmes le bénéfice du doute et d'avoir à démontrer dans d'autres contextes nos qualités. Et le troisième autre niveau dont j'avais envie de parler pour justement ce deuxième accord est au niveau de la responsabilité envers ce qui nous arrive. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de courants aujourd'hui dans le développement personnel qui disent « oui, nous sommes responsables de notre expérience, de ce qui nous arrive, etc. » La réalité est que c'est pas vrai. Je trouve que faire porter sur les épaules d'une personne la responsabilité de tout ce qui lui arrive est franchement pas cool. Et ce n'est pas non plus réaliste. Oui, il y a des choses que nous pouvons changer. Oui, nous contribuons nous-mêmes à notre bonheur en modifiant notre comportement, en modifiant nos habitudes, en établissant une bonne discipline, en ayant de la rigueur, de la résilience. Oui, oui, oui. Cependant, nous ne sommes pas responsables de tout ce qui nous arrive. Et si nous sommes dans des situations difficiles, ce n'est pas forcément que le ciel est en train de nous punir pour je ne sais quoi, mais c'est juste que la vie, c'est aussi des hauts et des bas. Et comme tout le monde, nous allons vivre des événements que nous ne maîtrisons pas. Nous ne sommes pas tous responsables des maladies qui nous arrivent. Nous ne sommes pas responsables des décès qui sont autour de nous. Nous ne sommes pas responsables des catastrophes naturelles. Enfin, au bout d'un moment, il faut arrêter un petit peu. Oui, il y a de la responsabilité collective. Typiquement, le fait de prendre soin de l'environnement, il y a de la responsabilité collective. Oui, le fait de prendre soin de sa santé, sa nutrition, faire du sport, etc., ça contribue à améliorer sa santé, mais nous ne sommes pas responsables de tout ce qui nous arrive. Nous sommes des petits êtres sur Terre qui contribuons chacun de nous comme il le peut, mais chacun ne prend pas la responsabilité de tous les événements qui lui arrivent. Je suis désolée, je ne suis pas d'accord. J'intègre ça dans « quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle ». Et le fait de se décharger un peu de ça, de se dire « ben ça oui, j'en suis responsable et ça non, c'est quelque chose que je n'avais pas prévu, que je n'ai pas forcément souhaité, mais qui m'arrive et avec laquelle je dois composer », c'est aussi se libérer d'un point de responsabilité qui ne nous appartient pas. Et pour vraiment parler des choses simples et des choses du quotidien, je vais donner un exemple qui peut paraître un peu brut, mais typiquement, toutes les personnes qui souffrent de violence ne sont pas responsables de ce qui leur arrive. Ce n'est pas parce que tu as dit tel mot, ou tu as mis tel avis, ou tu as contrarié telle personne, que voilà, elle a le droit d'être violente. Il y a des choses qui ne s'excusent pas, et dont on ne peut être responsable. Et le fait de voir la limite entre notre responsabilité et celle des autres permet de mettre les barrières au bon endroit. Alors, passons maintenant au troisième accord. Alors celui-là, oh là là, celui-là, j'en discute beaucoup avec les personnes que j'accompagne. C'est ne faites pas de suppositions. S'il vous plaît, ne faites pas de suppositions. Il n'y a pas quelque chose qui détruit plus votre bien-être et votre état de paix intérieure que les suppositions. Je sais, la nature a horreur du vide et donc du coup, on essaie de remplir le vide par des suppositions. Ah, il a réagi comme ça, c'est qu'il ne m'aime pas. Il m'est arrivé que de mauvaises choses dernièrement, c'est que je n'ai pas de chance. Il doit certainement ou elle doit certainement être au courant, et pourtant, il fait ou elle fait comme si de rien n'était. Alors des phrases comme ça, j'en entends tout le temps. Et vous savez ça, à qui ça fait du mal? Pas à l'autre personne, mais à vous et à votre relation. Et l'une des plus grandes suppositions, et des plus communes, c'est de penser que l'autre personne pensent de la même manière que vous. Et donc qu'elle devrait réagir de la même manière dont vous vous réagissez. Et que si elle a fait telle chose, c'est qu'elle doit penser telle chose parce que c'est ce que vous aurez pensé si vous avez fait telle chose. C'est horrible en fait. Arrêtez avec ça. Vraiment, si vous voulez retrouver la tranquillité d'esprit, arrêtez avec ça. Je sais, ce n'est pas évident, ça demande de l'entraînement, mais une fois que vous avez conscience de ces biais-là, une fois que vous avez conscience que vous passez du temps à faire des suppositions, une fois que vous allez commencer à questionner vos pensées, à questionner vos croyances, à ne pas les confondre avec la réalité, l'entraînement à la pleine conscience est très fort pour ça. Cette prise de recul avec vos pensées, vos croyances, vos jugements va vous aider à vous détacher des suppositions. Et donc vous aider à éliminer certaines ruminations qui émanent simplement de votre imaginaire. Le quatrième accord que j'aime aussi beaucoup et dont je vous ai déjà parlé, c'est de faire de votre mieux. Faites de votre mieux. Faites de votre mieux. Vous savez ce que c'est que faire de son mieux ? C'est être dans le présent. C'est vivre dans le présent. C'est donner ce qu'on peut donner dans le présent. C'est d'être conscient de ses propres limites, de ses propres capacités dans le présent et faire les choses sans forcément s'épuiser parce que nous sommes à l'écoute de notre corps, de notre esprit, mais aussi ne pas être absorbé par des pensées du passé ou du futur qui vont venir absorber de l'énergie et donc être complètement concentré dans notre tâche, ce qui fait qu'on va pouvoir donner ce qu'on a de mieux. Et c'est le fait de faire de son mieux qui va aussi permettre de progresser et d'éviter de culpabiliser ou de ruminer des regrets. Puis il y a le cinquième accord qui est fait office d'un autre livre. Et ce cinquième accord, je l'aime beaucoup aussi. C'est « Soyez sceptique, mais apprenez à écouter ». Soyez sceptique, mais apprenez à écouter. Nous ne sommes pas donc dans un enfermement envers le monde, à se dire « maintenant tout le monde a tort, il n'y a que nous qui avons raison, tout ce que disent les autres, c'est n'importe quoi ». Nous apprenons à écouter, nous prenons du recul, mais nous restons sceptiques. Nous questionnons ce que pensent les autres, ce que disent les autres, ce que nous pensons aussi, ce que nous disons aussi. Et en fait, cela reboucle vraiment avec les cinq accords qui, selon moi, vont tous ensemble et s'alimentent les uns les autres. Et cette attitude de curiosité, d'ouverture, de non-jugement, pour ceux qui me connaissent bien et qui ont déjà pratiqué de la pleine conscience avec moi, vous voyez qu'on retrouve vraiment beaucoup de ces attitudes dans ces cinq accords qui découlent de bon sens. Mais avec les exemples que je vous ai donnés, on voit aussi à quel point c'est difficile à appliquer au quotidien et à quel point cela aussi demande de l'entraînement. Et je vous avais déjà parlé lors d'épisodes précédents sur la plasticité de notre cerveau et sa capacité à se transformer avec l'expérience. Et justement, c'est ce que nous faisons dans le cadre de l'entraînement à la pleine conscience, cet entraînement du cerveau à des attitudes, à une prise de recul par rapport aux pensées, par rapport aux émotions, à augmenter notre présence, à augmenter notre conscience, à observer davantage, mieux, plus précisément, plus clairement. Cette capacité d'observation, de recul, de curiosité qui va venir rendre, comme le dit le premier accord, notre parole impeccable. Comme le dit le deuxième accord, ne pas faire une affaire personnelle de ce qui nous arrive. Puis avec le troisième accord, éviter de faire des suppositions, donc confondre notre perception et notre réalité, qui va nous inviter à faire notre mieux avec la connaissance que nous avons de notre énergie. Et enfin, à rester sceptique, mais surtout ouvert, apprendre à écouter, à accueillir et surtout à aimer. C'est la fin de notre épisode, j'espère qu'il vous a plu, j'espère que vous avez appris de nouvelles choses, j'espère que ça vous a donné aussi l'envie d'aller lire le livre, le relire, que ça a enrichi ce que vous savez déjà, que ça vous a peut-être aussi fait sourire par moments avec les expériences que je raconte, que ça a peut-être résonné en vous ou pas. En tout cas, pour ma part, c'était vraiment un grand plaisir de partager ce joli moment avec vous. Que vous soyez chez vous tranquillement, ou en voiture, ou en train de marcher, ou de bronzer, ou ce que vous voulez. Je suis super heureuse d'avoir passé ce petit moment avec vous. Je vous envoie plein de caring vibes. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Vivre. Prenez soin de vous.